There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Ça marche, le journaliste.
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
Il est 9h40 et soyez les bienvenus sur France Inter. Non, dans l'instant même, on est toujours sur France Inter.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure, le journalisme.
Et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Liberté de la presse, journaliste en danger. Lundi le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, le thème est l'information comme bien public. Est-ce que la liberté de la presse est respectée dans votre pays, votre région, votre province? Quels sont les dangers d'être un journaliste d'investigation? Témoignage choc d'une journaliste en Bretagne et le rôle des journalistes et des médias revisité lors de la crise d'octobre au Canada il y a 51 ans. Cette édition spéciale est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, France Info, l'UNESCO, Reporters sans frontières. Lundi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse avec CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime. Dimanche 2 mai 2021, 18e émission de l'année. Eh oui, bonjour, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers la planète, bienvenue dans le Popourri Show, le magazine incontournable de la francophonie de 11h à 13h sur www.cut.fm. Toujours en mode virtuel sur le campus de l'Université de Toronto. Collaboration spéciale aujourd'hui et nos partenaires sont les Français de l'étranger. Le livre du jour avec les éditions Prises de Parole, Tolalito Music de Montréal et ses nouveautés et le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO. Montage, mixage et ingénieur du son, DJ Devera. Production animation, Eric Kader. Pour nous écouter, où que vous soyez à travers la planète, ou si vous souhaitez télécharger nos émissions ou découvrir nos coups de cœur littéraires et musicaux tout au long de la semaine, visitez notre site web popourrichaud.com. Et une pensée spéciale aux médecins, aux infirmières, infirmiers et ceux et celles qui œuvrent dans les services essentiels. Nous pensons bien à vous. Un bonjour spécial aux auditeurs, auditrices mauriciens, français, qui sont à Melbourne, à Perth, Adélaïde en Australie, les auditeurs en Bretagne, à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Londres, en Russie, au Texas, à Miami, Los Angeles, à New York, à Port-au-Prince, bien le bonjour et que la force soit avec vous. Et merci à tous ceux et celles qui ont répondu avec enthousiasme à l'émission spéciale de dimanche dernier, émission en hommage au poète mauricien Édouard Monique, que nous avons bien connu. Et oui, à la demande générale, nous vous proposerons d'autres aventures de la poésie de l'insulaire. Et si vous souhaitez être membre de la radio, vous souhaitez participer activement ou encore nous donner un coup de main, un coup de pouce lors de notre prochaine campagne d'adhésion du 10 au 16 mai prochain, eh bien, mesdames, messieurs, CUTFM, Popourri Show compte sur vous, sur votre générosité pour poursuivre sa mission. Visitez le site web www.cut.fm. Tous les renseignements sont en ligne. Ou écrivez-nous, envoyez-nous même un message. Dites-nous pourquoi vous aimez la radio, pourquoi vous aimez Popourri Show. 34 ans déjà. Allez, on lira vos messages la semaine prochaine. popourri@cut.fm. Et au menu aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir deux femmes extraordinaires. L'une est française, engagée auprès de ses compatriotes. Et oui, elle est conseillère consulaire sortante. Elle se représente aux prochaines élections consulaires pour les Français de l'étranger le 29 mai prochain. Francine Watkins, tête de liste indépendante au service de tous les Français, Françaises de la circonscription de Toronto, Ontario et Manitoba. La deuxième invitée qui nous... Je pense que c'est la première fois qu'elle passe à l'émission. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais rencontrée? Et oui, elle nous présente le livre du jour en partenariat avec la maison d'édition Prise de Parole. Elle est cofondatrice de Vox Théâtre. Elle est autrice dramatique, romancière, scénariste, traductrice, conteuse et parolière originaire de la ville d'Ottawa. Elle a publié plusieurs livres. Eh oui, son dernier livre, Errance, est le premier volet d'une trilogie fantastique qui explore les notions de réalité et d'existence avec sérieux, humanité et une touche de ludisme. Accueillons, mesdames, messieurs, Marie T. Morin. L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement dévoilée cette semaine la liste des finalistes des 50e prix Juno. Eh oui, Juno Awards, qui sont les nominés francophones. Et pour célébrer l'histoire riche et diverse de l'industrie de la musique au Canada, Popourri Show est fier de vous présenter aujourd'hui quelques nominés francophones, soit en direct ou encore en ligne sur notre site web. Et puis, en cette période inédite, l'équipe vous offre un petit remontant avec des coups de cœur de nos médias partenaires et de la Little Music de Montréal, la plateforme musicale partenaire de cette émission. Et pour tout de suite, les buzz de la semaine. Les buzz de la semaine, un regard différent sur l'actualité de la francophonie et du monde. Après le verdict de l'affaire George Floyd aux États-Unis, les francophones issus de la diaspora africaine et antillaise au Québec et en Ontario réclament de vrais changements. Si vous souhaitez partager un témoignage ou participer à nos émissions, veuillez nous écrire à popourri@cut.fm. Crise à l'Université Laurentienne, toujours pas d'issue, tout le monde se renvoie la balle. Quel avenir pour l'Université Laurentienne? Selon un professeur qui a perdu son emploi, il est grand temps que la province de l'Ontario s'implique. La commissaire au service en français de l'Ontario, Kelly Burke, affirme suivre la situation à l'Université Laurentienne de très près. Pour Denise Truax, directrice des éditions Prise de Parole et autrice franco-ontarienne, la Laurentienne a commis l'irréparable. Sous le choc, des étudiants internationaux sont dans le flou. Ils ont vu leur programme amputé du jour au lendemain. Plusieurs étudiants sont très inquiets de leur statut et de leur avenir au Canada. Certains médias francophones du pays ont enfin dévoilé leur vrai visage au grand jour. Et oui, un faux pas énorme pour deux grands quotidiens la semaine dernière. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec ont créé un malaise en publiant en première page une photo du premier ministre Justin Trudeau portant des habits traditionnels de l'Inde pour traiter du premier cas de variant indien de la COVID-19 détecté au Canada. À Québec et à Ottawa, des politiciens de plusieurs partis ont immédiatement dénoncé cette manœuvre dangereuse qui sert à alimenter les préjugés et la haine raciale. La question, Est-ce la faute des journalistes ou c'est plutôt une stratégie bien ordonnée, coordonnée, qui s'aligne de plus en plus à la politique des extrémistes de droite et anti-immigrants? Question. Les médias francophones au Canada sont-ils racistes? Combien de personnes issues de la diversité sont dans nos médias francophones? Écrivez-nous à popourri@cut.fm. Le Canada veut vous connaître, participer en grand nombre au recensement national du gouvernement du Canada. Le jour du recensement aura lieu le 11 mai prochain. Dans le contexte actuel de la pandémie, l'option de remplir un questionnaire en ligne est la meilleure manière afin de respecter les mesures sanitaires. Donc, à compter du 3 mai, donc demain, vous pourrez remplir votre questionnaire du recensement en ligne et en toute sécurité. Retrouvez tous les liens en visitant popourrichaud.com. Quel défi pour le Tchad après la mort d'Idriss Déby? Notre ami et confrère à Radio France Internationale Alain Foka est le dernier journaliste qui a parlé au président défunt. Les voix s'élèvent en Afrique et en France pour exiger un nouveau gouvernement démocratique au Tchad. Silence radio chez M. Trudeau et son gouvernement. En Tunisie, la pandémie se répand avec 107 décès cette semaine. Acte terroriste d'un Tunisien au commissariat de Rambouillet, près de Paris. La Tunisie est en état de choc. Après une campagne de protestation contre le gouvernement, l'île Maurice fait marche arrière et interdit les vols en provenance de la grande péninsule, l'Inde. De notre correspondante à Antananarivo, au Madagascar, le gouvernement malgache interdit 9 émissions de radio pendant 15 jours. Dans le dernier rapport de l'ONG Reporters sans frontières sur l'état de la liberté de la presse, publié en début de semaine, Madagascar chute ainsi de la 54e à la 57e place. Haïti, 3 des 7 religieux enlevés ont été libérés. Et puis l'Organisation internationale de la francophonie s'intéresse à Haïti pour une dynamique de dialogue constructive. Les représentants des États et gouvernements et des organisations internationales partenaires ont exhorté toutes les parties prenantes haïtiennes à s'engager urgemment et avec responsabilité dans une dynamique de dialogue constructive, seule condition pouvant permettre une sortie de crise avec la tenue d'élections libres, fiables, transparentes et inclusives. La secrétaire générale de l'OIF a tout particulièrement appelé les autorités à redoubler d'efforts en ce sens. Guadeloupe, la journée internationale du livre, événement célébré le 23 avril et organisé par l'UNESCO à travers le monde pour promouvoir la lecture, la publication et les droits d'auteur, a eu un vif succès dans cette île des Antilles. Martinique, dans une période sanitaire inédite, deux jeunes femmes, Cindy Bouton et Auréline Bessler, lancent avec toute leur énergie Vibe Club, une annuaire digitale dans l'espoir de créer une chaîne solidaire entre Caribéens professionnels ou particuliers. L'idée est saluée par nombre de professionnels qui commercent sur les réseaux sociaux. Île de la Réunion, deux jeunes randonneurs meurent en allant voir le volcan en éruption, Piton de la Fournaise. Et puis, toujours à la Réunion, la dengue, l'autre épidémie qui frappe l'île de la Réunion. Nos salutations chaleureuses aux nombreux auditeurs de Miami, Los Angeles, New York, Rennes, Paris, l'île Maurice, Martinique, l'Australie, qui ont réagi vivement suite à l'émission en hommage au grand poète et diplomate mauricien Édouard Monique. Un merci spécial à notre ami de toujours, Eddie Bouraoui, professeur émérite, pour son message et son soutien à nos programmes depuis plus de 33 ans. Oscar 2021, scénario, son, documentaire, 3 Oscars pour la France. Cette 93e édition fut historique, la plus diversifiée et la plus inclusive de son histoire, récompensant beaucoup de personnes de couleur, notamment des Noirs et des Asiatiques, dans diverses catégories pour la première fois. Le cinéaste français Florian Zeller, lauréat du prix du meilleur scénario, adapté pour son premier film, The Father, sur un vieil homme qui sombre dans la démence. Découvrez le palmarès complet sur notre site popourrichaud.com. Et ne manquez pas le rendez-vous avec nos invités formidables aujourd'hui vers 12h05, Marie-Thé Morin et son dernier livre, Errance, aux éditions prise-de-parole.ca. Escapade, vagabondage, réel ou virtuel, à ne pas manquer. Et Francine Watkins, femme très engagée de la région de Toronto, conseillère sortante, candidates qui se représentent aux prochaines élections des conseillers consulaires du 29 mai prochain. Découvrez son programme sur francinewatkins2021.com. Et nos coups de cœur musicaux, si on a le temps, les Cowboys Fringants et qui reviennent avec, c'est un groupe québécois si vous ne le saviez pas, ils sont nominés au prochain prix Juno de Toronto, à Toronto le 6 juin prochain. C'est le 50e anniversaire des prix Juno cette année. Et derrière le brouillard avec le poète-auteur que nous aimons beaucoup, Grand Corps Malade et Louane, L'argent, si vous préférez, un nouveau single featuring DJ Abuelo et Black Tiger, une présentation de Teolalito Music, c'est une nouveauté. Et pour tout de suite, un tour d'horizon des sujets qui ont marqué l'actualité dans les pays membres de la francophonie avec nos radios publiques francophones.
Voici l'accent des autres. Bienvenue, comme chaque semaine, dans votre rendez-vous avec l'actualité des médias francophones publics, la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, France Inter, la RTBF et RFI. Et on commence en Suisse, où pour la première fois, un parlement cantonal est à majorité féminine, Pierre-Anne Chauffat.
Le corps électoral neuchâtelois a poussé les femmes comme jamais, 58 sièges sur 100. Raison de ce succès, le volontarisme des partis, y compris à droite.
Nous allons aussi évoquer le sommet sur le climat initié par le président américain Joe Biden parce que le Canada se dote d'une nouvelle cible pour réduire ses émissions de GES, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, Naïla Bendali.
Le premier ministre Justin Trudeau a profité du sommet pour annoncer que le Canada réduira ses émissions de GES de 40 à 45 d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Mais les environnementalistes sont déçus.
Sur le continent africain, Nicolas Sur, ce coup de tonnerre mardi dernier au Tchad de l'annonce de la mort du président Idriss Déby.
Oui, selon l'armée tchadienne, le chef d'État a été mortellement blessé en se battant contre des rebelles dans le nord du pays. C'est une page d'histoire de 31 ans qui se tourne.
En Belgique, cette fois, le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs reste élevé, mais malgré cela, plusieurs secteurs annoncent leur intention de reprendre leurs activités. Jacques Kremers, malgré les interdictions.
Oui, après l'Oreca, café et restaurant, c'est le secteur culturel qui se dit prêt à rouvrir en toute sécurité, mais aussi en toute illégalité. 90 lieux culturels disent qu'ils vont reprendre leur programmation.
Enfin, en France, des entreprises font appel aux nouvelles technologies pour envisager notre future vie quotidienne face aux crises sanitaires, au pluriel, Eric Delvaux.
Oui, le projet s'appelle Be Lifeline, des innovations qui vont peut-être nous changer la vie, au travail comme dans certains lieux publics.
Voilà pour le sommaire de cette semaine.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
CIUT 89.5 Toronto.
Yeah. Moi je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation, Diversity Our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix-Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça.
Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté qui a laissé des plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer.
La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe.
Liberté de la presse, journaliste en danger.
Lundi le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, le thème est l'information comme bien public. Est-ce que la liberté de la presse est respectée dans votre pays, votre région, votre province? Quels sont les dangers d'être un journaliste d'investigation? Témoignage choc d'une journaliste en Bretagne et le rôle des journalistes et des médias revisité lors de la crise d'octobre au Canada il y a 51 ans. Cette édition spéciale est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, France Info, l'UNESCO, Reporters sans frontières. Lundi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse avec CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui lui?
Un jour, une question. Est-ce que la liberté de la presse est respectée partout dans le monde? Non. Dans certains pays, c'est très difficile d'exercer le métier de journaliste, voire même dangereux. En 2015, 110 journalistes ont ainsi été tués dans le monde. 153 sont en prison et 54 sont retenus en otage. Jusqu'ici, les zones les plus dangereuses étaient celles où sévissent des guerres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même dans les pays en paix, les journalistes peuvent être en danger. Mais pourquoi s'attaquer à des journalistes? Grâce à leurs articles, leurs reportages, les journalistes éclairent les citoyens. En leur donnant des informations, ils leur permettent de se forger une opinion librement. Parfois, les journalistes témoignent de situations graves, où ils dénoncent des scandales. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Un journaliste critique le gouvernement, on le met en prison. Un autre s'intéresse de trop près à un trafic de drogue, on l'élimine. Quand les journalistes ne peuvent pas s'exprimer librement, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule source d'information, celle dictée par des gouvernements autoritaires. Comment se faire alors sa propre opinion sur ce qui se passe dans le monde ? Heureusement, des associations, comme Reporters sans frontières, défendent les journalistes et la liberté de la presse. Le 3 mai prochain, partout dans le monde, on célèbre la Journée mondiale pour la liberté de la presse. L'occasion de rappeler que la liberté de la presse est précieuse et fragile. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.
En ces temps de grande confusion, les politiques et les radios poubelles libèrent la parole des esprits agressifs et violents. Internet et les réseaux sociaux semblent être devenus pour certains le seul véritable contre-pouvoir. Pourquoi tant de haine envers les journalistes ? Les journalistes sont-ils amenés à disparaître ? Pourtant, bon nombre de jeunes et de parents y voient un métier désirable, tout en critiquant les médias. Selon un dernier sondage, la liberté de la presse s'améliore au Canada mais recule aux États-Unis. Petit survol de la situation sur la liberté de la presse dans le monde avec l'édition 2021 du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières qui démontre que le principal vaccin contre le virus de la désinformation, à savoir le journalisme, est totalement ou partiellement bloqué dans 73% des pays. Reportage.
La liberté d'informer, entravée totalement ou partiellement dans 73% des pays du monde. C'est le chiffre édifiant révélé ce mardi par Reporters sans frontières et qui révèle aussi son classement 2021. 73% des pays sont classés en orange, rouge ou noir, ce qui correspond à des situations problématiques, difficiles ou très difficiles pour la liberté de la presse. Et le Covid-19 a parfois exacerbé ces entraves qui existaient déjà. RSF parle d'une fermeture des accès au terrain dans de nombreux pays à cause de la crise sanitaire, même si celle-ci apparaît aussi parfois comme un prétexte. Certains pays présentent une situation plutôt positive. Dans le trio de tête, on retrouve toujours les pays nordiques, la Norvège, la Finlande, la Suède. Le Portugal est le premier pays d'Europe du Sud à faire partie du top 10. Globalement, l'Europe et l'Amérique restent les continents les plus favorables à la liberté de la presse, mais les violences envers les journalistes ont plus que doublé au sein de l'Union européenne et dans les Balkans. L'Allemagne perd 2 places. Des dizaines de journalistes ont été agressés par des manifestants ces derniers mois lors de manifestations contre les restrictions sanitaires. Quelques places de perdu aussi pour le Luxembourg. 3 pour la Grèce, 5 places. La Grèce où RSF relève une entrave du travail des journalistes qui couvrent l'actualité liée à la situation des migrants, notamment sur l'île de Lesbos. Les manifestations contre la loi sécurité globale ont également fait beaucoup parler en France, qui reste stable à la 34e place. La Slovaquie, la Slovénie, la Pologne reculent aussi, tout comme la Hongrie, qui inquiète particulièrement, moins 3 places. De nombreux médias indépendants y sont censurés, à l'image de la radio indépendante Club Radio. Et puis dans le reste du monde, à noter que les États-Unis regagnent 1 place au classement, même si la dernière année du mandat de Donald Trump a été marquée par des agressions envers les journalistes. Indicateur rouge en revanche en Amérique latine, moins 4 places pour le Brésil, où l'accès aux informations concernant la pandémie a été entravé par le gouvernement de Jair Bolsonaro. Et puis, malgré la réduction des déplacements en 2020, 50 journalistes ont été tués. Voici les pays les plus meurtriers, le Mexique, l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. C'est un chiffre stable par rapport à 2019. Et puis 400 autres journalistes ont été emprisonnés en tout dans le monde.
Bonjour, Pauline Hadès-Mével, vous êtes notre invitée, vous êtes responsable du bureau Europe et Balkans de Reporters sans frontières. À quelle conclusion globale, générale, arrivez-vous cette année ?
Elles sont à une conclusion qui n'est pas excellente, puisqu'il y a un climat de peur qui s'est installé globalement et qui fait que les journalistes aujourd'hui ne travaillent plus dans des conditions idéales. C'est vraiment ce qu'on retient de ce classement cette année sur 180 pays. La peur des journalistes d'investigation, les pressions, une méfiance à l'égard des journalistes. Et c'est vraiment le constat qu'on fait dans plusieurs régions du monde, certaines descendant plus ou moins. Mais clairement, c'est ce qui ressort.
Vous dites qu'il y a donc moins de zones sûres aujourd'hui pour les journalistes. Concrètement, c'est quoi ces zones qui auraient disparu ?
Alors l'Europe, par exemple, qui était non pas un sanctuaire, mais en tout cas une zone où les journalistes pouvaient travailler dans des conditions à peu près bonnes, et qui a été frappée au cœur l'an dernier, ça a continué cette année. On voit que le continent européen est marqué par des attaques physiques. Il y a eu 3 meurtres quand même en 18 mois. Des attaques physiques, des attaques verbales, un cyberharcèlement qui se répand partout. Et puis aussi une parole libérée de certains leaders politiques qui galvanisent les populations. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes en France, mais on le voit ailleurs. À partir du moment où des leaders politiques dans des démocraties comme les démocraties européennes se lâchent, attaquent les journalistes, insultent, forcément ça a des conséquences sur le terrain. Et alors c'est de la parole aux actes. Tout à coup, il y a des attaques physiques. Il y a beaucoup d'autres problèmes à déplorer. Mais cette année, c'est vraiment ce qui ressort.
Est-ce que vous diriez malgré tout que l'Europe reste l'un de ces continents où l'on garantit le mieux la liberté de la presse?
Alors, effectivement, ça reste un des continents où on garantit le mieux la liberté de la presse.
C'est d'ailleurs, paradoxe, finalement. Un plus et un moins en même temps.
Un plus et un moins, parce qu'il y a des pays, le trio de tête, par exemple, Suède, Finlande, Norvège, qui est en général le trio qui se maintient chaque année, avec quelques modifications selon les années, reste bon. Il y a quand même un bon climat, mais avec une tendance qui touche des pays. On l'a vu avec la Slovaquie, avec un meurtre, mais la République tchèque continue de descendre. Malte avait été frappée au cœur, a chuté et à nouveau chuté cette année. Donc il y a un certain nombre de pays où la situation était correcte, voire bonne, et qu'il est de moins en moins. L'Europe est évidemment plus facile à appréhender pour les journalistes que d'autres continents, mais c'est vraiment pas idéal. Et on profite vraiment des élections européennes qui se profilent pour appeler les futurs parlementaires à prendre position pour la liberté de la presse.
Profiter du contexte pour interpeller notamment le Parlement européen. Je crois que vous avez des préconisations, notamment lesquelles exactement?
Alors là, on a 10 préconisations en fait que nous avons adressées, que nous répondons dans la presse de tous les pays de l'Union européenne. Principalement, on s'aperçoit que la liberté de la presse, qui est un pilier de la démocratie, en fait n'est pas dans les mains d'un commissaire, mais de plusieurs. Toutes ces questions qui touchent à la liberté de la presse et qui sont urgentes devraient être réunies dans un portefeuille qu'un commissaire porterait, qui lui permettrait, en cas d'urgence, d'attaque physique, de meurtre, justement, d'intervenir très rapidement auprès des gouvernements concernés. Donc ça, c'est très important. Il faut des sanctions. On a préconisé un système type Magnitsky pour sanctionner, effectivement, les États qui ne protégeraient pas les journalistes. Il y a également pas mal d'initiatives pour une information fiable, comme celle de Reporters sans frontières.
Vous parlez de préconisation. Est-ce que vous pensez que l'Europe est prête à cela aujourd'hui?
Alors l'Europe est sûrement prête, en tout cas est consciente qu'il y a des problèmes, donc nous pensons évidemment que l'Europe va écouter nos propositions. Il faut un petit peu de temps probablement pour que toutes ces propositions soient mises en place, mais il y a une écoute, il y a eu suffisamment d'événements marquants pour interpeller les parlementaires.
Quittons peut-être un instant le vieux continent, ça se passe comment ailleurs?
Alors ça se passe pas très bien sur le continent nord-américain qui continue de chuter avec 48e pour les États-Unis, moins 3 places.
Le discours de Donald Trump, il est pour quelque chose selon
vous? Oui, il y a largement participé, ça continue, c'est pas seulement depuis son élection, mais c'est effectivement ses invectives contre les journalistes, c'est pas très bon. Le continent sud-américain est très marqué, on a un certain nombre de meurtres au Mexique, au Venezuela des attaques contre les journalistes, un populiste au Brésil, donc ça n'arrange rien. Tout ça, c'est quelques pays qui sont vraiment marqués par Reporters sans frontières et considérés comme des endroits où vraiment il n'est pas bon pour les journalistes de travailler, en tout cas pour l'Amérique du Sud. L'Inde aussi ne va pas bien, le Vietnam recule, il y a le Turkménistan est dernier maintenant, la Corée du Nord lui est passée devant. Il y a quand même quelques changements, mais ce qui est clair, c'est que le continent sud-américain effectivement baisse.
Vous parlez des journalistes d'investigation, leur travail a évidemment évolué avec le temps. Est-ce qu'ils se rendent toujours aussi facilement dans les zones à couvrir aujourd'hui?
Les journalistes d'investigation sont les journalistes qui sont les plus visés. Alors, en Europe, par des réseaux mafieux, des réseaux criminels, qui viennent parfois des Balkans, mais ils sont visés un peu partout dans le monde. On a sorti un gros rapport au mois de novembre, justement, sur ce sujet. De manière générale, les journalistes d'investigation qui dérangent, qui sont organisés en consortium, aujourd'hui, qui peuvent partager leurs informations et donc les sauver, les diffuser plus facilement, sont plus forts, dérangent plus, donc sont plus visés.
Merci beaucoup Pauline Adès-Mével d'avoir été notre invitée du jour sur ce rapport qui donc vient de sortir, celui de Reporters sans frontières.
Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme
sur Twitter, Instagram?
On est dans un moment de grande confusion.
Il est 9h40 et soyez les bienvenus sur France Inter. Non, dans l'instant même, on est toujours sur France Inter.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Les images des correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme.
Et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Lundi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, le thème est l'information comme bien public. En Tunisie, la liberté de la presse et de l'information est l'acquis le plus important de la révolution. Depuis les élections générales de 2019, elle est plus que jamais un enjeu politique. Et les parlementaires et les politiciens d'extrême droite n'hésitent plus à s'en prendre ouvertement aux acteurs des médias. L'île Maurice perd 5 places dans le classement 2021. L'indépendance des médias mise à mal. Maurice a beau être l'un des pays africains salués par des modèles de démocratie et le respect des droits humains. Mais malheureusement, le paysage médiatique y est fortement polarisé et reste très marqué par l'influence des personnalités du monde politique ou économique. D'un côté, la radio-télévision nationale et les médias proches du pouvoir versent très souvent dans la propagande, tandis que ceux plus favorables à l'opposition sont susceptibles d'être mis à l'écart. Burundi, un pas vers la liberté de la presse. Le président burundais a appelé cette semaine à régler les différends avec la presse. Une main tendue inédite au regard des rapports entre les autorités et les médias ces dernières années. Avant de présenter un petit montage qu'a préparé DJ Devera pour vous sur certains événements qui ont marqué la liberté de la presse à Mexico, au Congo, et la page sombre au Québec lors de la crise d'octobre il y a 51 ans déjà, et oui, une période marquante pour les médias d'information au Québec, une période qui a plongé les journalistes dans une réalité méconnue, un climat explosif avec en toile de fond des enlèvements politiques et le meurtre du ministre Pierre Laporte. La crise a aussi mis en lumière le rôle clé des journalistes dans le fil des événements. Direction la Bretagne, mon pays d'adoption. Morgane Large, journaliste d'investigation qui travaille notamment dans une radio locale ainsi que certains médias nationaux, est depuis quelques semaines victime de sabotage et de menaces. La cause ? Un documentaire diffusé sur France 5 intitulé « Bretagne, une terre sacrifiée » qui a mis le feu aux poutres chez les agriculteurs et industriels de la région. Morgane Large a subi insultes, menaces et sabotages, des tentatives d'intimidation. Aujourd'hui, la journaliste souhaite porter plainte et compte poursuivre ses enquêtes. Reportage, une gracieuseté d'Europe 1.
C'était sur la politique de la région Bretagne en matière d'agriculture, mmh, et notamment l'aide aux poulaillers de grande dimension, l'aide de la région de 50 000 euros par poulailler qui pose question dans pas mal d'endroits où il y a ce type de projet.
Qui pose question ou qui pose problème ?
Pour l'instant, ça pose question. Après, je pense que lorsqu'on est interpellé par les associations environnementales qui nous disent que la Bretagne est en surchauffe environnementale et qu'il faut absolument baisser le nombre d'animaux, eh bien, et qu'on voit le phénomène des algues vertes qui n'est pas du tout en passe d'être réglé quand même en Bretagne, oui, ben, ça pose sans doute à terme problème. Oui.
Vous aviez...
Il y a autre chose qui pose problème, c'est quand un vice-président en charge de l'agriculture à la région Bretagne, qui est ancien président de la FDSEA départementale, dépose dans les enquêtes publiques en faveur des projets, alors que ce n'est pas l'endroit où doivent s'exprimer la parole politique. En vérité, ça constituait, c'est ce que j'ai dit dans mon travail, ça constitue une forme de pression sur une commissaire enquêtrice.
Vous aviez également enquêté sur les dégâts causés par l'agro-industrie en Bretagne. Nous vous avions joint il y a une semaine, Morgane Large, pour le journal des médias. Vous nous disiez alors que vous vous sentiez fragilisé, que vous aviez peur. Je rappelle, c'est vous qui avez découvert votre voiture avec une roue dont les boulons avaient été retirés. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, quand j'entends votre journal et que j'entends ce journaliste à Athènes, ce journaliste d'investigation qui a été tué, je me dis, Je me dis que c'est terrible, j'ai peur, oui, j'ai peur qu'on mette le feu à ma maison, en fait, quand je dors. J'ai peur qu'il y ait d'autres choses, ce sera pas des attaques frontales, je pense, mais c'est toutes ces choses bien qu'on peut justement, enfin moi j'ai pas suffisamment d'imagination pour savoir ce qu'on va me réserver comme ça.
Vous nous disiez précédemment que vous ne saviez pas comment vous alliez faire pour retourner sur le terrain. Est-ce que vous y êtes retourné? Est-ce que vous avez continué à enquêter?
Non, je suis pas retournée sur le terrain depuis, c'était assez récent, c'était le 31 mars. Oui, je suis pas retournée sur le terrain parce que j'étais en vacances cette semaine, mais c'est toute la question, c'est comment je vais retourner sur le terrain, comment je vais oser aller dans des endroits où j'allais de manière très détendue auparavant, quoi. Même en fait, là je commence une autre enquête, même passer des coups de fil en fait. J'ai des menaces par téléphone. Je passe un coup de fil à une très grosse coopérative en demandant une interview et on me dit mais on ne vous a rien commandé. On ne vous a pas demandé d'article. Et donc je dis ben oui, enfin c'est un peu le jeu, je vais pas forcément là où on me demande. Quand je vois que l'interview va pas être possible, je dis ben, écoutez, c'est pas grave, je renonce, je marquerai soit dans mon article, soit je dirai à la radio que vous n'avez pas souhaité vous exprimer. Mmh. Et là on me dit ah mais non, si vous faites ça, on vous attaque en diffamation. Si notre nom apparaît, je vous promets que vous aurez des ennuis. Donc c'est très très compliqué. Un simple coup de fil, ça peut aboutir à cela.
On va y venir à ces attaques judiciaires. Je me tourne vers vous, Julien Vinzan. Vous faites également de l'investigation à l'échelon local, comme Morgane Large, mais là je l'ai dit, c'est sur la région PACA autour de Marseille. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu parler de ce qui lui est arrivé?
Ouais, c'est terrible, c'est un peu glaçant qu'il me soit permis de lui adresser tout mon soutien à distance pour ce que ça vaut. C'est une situation dans laquelle on ne devrait pas se retrouver. Morgane, elle fait son travail, comme elle l'explique, elle se retrouve dans une situation où elle ne sait pas si elle doit continuer à le faire parce qu'elle craint pour sa sécurité, elle craint pour ce qu'on peut lui faire. Donc ça c'est glaçant et on voilà, on se dit que effectivement il y a encore des choses comme ça qui peuvent se passer, des pressions qu'on n'imagine pas forcément. C'est vrai que nous, dans notre travail quotidien, on est habitué à des choses plus institutionnelles, plus policées, qui sont souvent plus insidieuses. Hein. Ça veut pas dire qu'elles sont sans conséquences. Mais c'est vrai qu'on a eu, nous, dans notre histoire, à des moments, quelques surgissements aussi dans certains milieux où on voyait que en fait, ça pouvait assez vite déraper, quoi. On l'a pas vécu, nous, personnellement, mais moi, j'ai une de mes sources, un de mes contacts, ont travaillé sur des enquêtes dans le milieu de la chasse. Il s'est fait donner rendez-vous sous prétexte de lui fournir des informations sur ça, et il s'est fait agresser à coups de marteau. Bon, ben, quand je l'ai eu au téléphone les jours après, je me suis dit, mais c'est... Alors, on a mis les pieds dans un milieu où on peut faire ça.
Alors, je dois dire que Morgane Large, vous n'êtes pas toute seule. Il y a un rassemblement qui a été organisé à Rostrenen, dans le centre Bretagne, mardi dernier. Près d'un millier de personnes étaient présentes pour vous soutenir et plus largement pour soutenir la liberté d'informer, parce que vous n'êtes pas la seule à avoir été ciblée dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Pourquoi cette mobilisation?
Bien, en fait, la mobilisation, elle intervient parce que c'est de plus en plus, en effet, de plus en plus compliqué de couvrir ces sujets. Les journalistes sont accusés d'être militants. Il y a aussi la cellule Déméter qui est apparue et qui fait craindre aussi pour notre travail, parce que il y a cette cellule donc qui est censée protéger les agriculteurs contre l'agribashing. En fait, elle a été faite pour protéger, je pense, davantage l'agro-industrie.
Ouais, c'est une cellule qui a été créée par
la... vraiment question.
C'est une cellule qui a été créée autour de la Gendarmerie nationale, c'est bien ça?
Voilà, autour de la Gendarmerie nationale. Et nous, quand on voit qu'il y a une confrère allemande qui est venue sur ma commune, nous avions rendez-vous le lendemain, qu'elle a eu un différend, une altercation avec un agriculteur, qui au départ d'ailleurs ça s'était très bien passé, et que l'agriculteur est revenu dans son gîte avec les gendarmes, et que les gendarmes l'ont obligé à effacer sa bande, eh bien moi ça me pose question sur la suite en fait de mon histoire, parce que je vais porter plainte, mais je sais pas qui va être saisi de l'enquête, et je me pose des questions sur le recul suffisant ou pas que peut avoir la gendarmerie pour intervenir quand je sais qu'elle demande à des reporters étrangers d'effacer des enregistrements. C'est en cours, je me fais aider par Reporters sans frontières qui m'a proposé son aide parce que j'ai envie que cette plainte elle aboutisse, parce que j'ai pas envie que ça arrive à d'autres journalistes, à mes collègues qui sont aussi exposés que moi. Là il y a un focus sur moi, mais je pense que je suis pas la seule. J'ai des collègues aussi qui vivent des heures assez difficiles, et puis moi ce que je trouve inadmissible c'est être interpellé dans l'espace public, c'est normal. Ne plus être invité aux conférences de presse comme j'ai pu l'être aussi pendant un moment, ça je trouve ça déjà beaucoup moins normal, mais attenter à la sécurité des gens et puis à celle de leur famille surtout.
C'est une évidence, c'est une évidence.
Complètement inadmissible.
Et ça va toujours mieux en le disant. Merci beaucoup, Morgane.
Au Mexique, des dizaines de journalistes se sont rassemblés mardi soir à Mexico pour rendre hommage à leur collègue Javier Valdés, assassiné la veille. Une manifestation organisée devant le ministère de l'Intérieur comme pour mettre la pression sur les autorités. Les professionnels se sont en effet menacés, notamment par les cartels de drogue. Depuis le début de l'année, 5 journalistes ont été assassinés.
L'impunité
des assassinats de journalistes est une incitation à poursuivre le meurtre de journalistes, déplore cette reporter. Nous, journalistes, on est comme tout le monde, ajoute cet homme. Mais ce qu'on regrette, c'est que par rapport à ce qui se passe, les gens détournent le regard et se bouchent les oreilles. Âgé de 50 ans, Javier Valdés a été abattu en pleine rue à Culiacán, dans le nord-ouest du pays. Collaborateur de l'agence France Presse, il était connu pour ses reportages sur le trafic de drogue. En 2011, il avait d'ailleurs reçu le prix international de la liberté de la presse.
C'était un week-end mouvementé le samedi 3 avril 2021, lorsque la presse va apprendre, en tout cas au travers une publication d'un proche de Félix Tshisekedi, que ce dernier menaçait en tout cas 4 journalistes dans l'exercice de leur profession. La liberté de la presse serait-elle en danger sous Fatih Binton, sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devrait en être le premier défenseur? C'est la question que se pose bon nombre d'observateurs et bon nombre de Congolais, et tout simplement. Nous avons été désagréablement surpris de vivre et de lire cette publication d'un ancien, en tout cas, directeur de la communication présidentielle, Abraham Luaka Bouanga, lui qui a été justement démis de ses fonctions pour une faute professionnelle. Et donc ce dernier a publié sur sa page un message qui n'a pas laissé indifférent, en tout cas, tous les Congolais en général, mais surtout des journalistes qui se sont sentis menacés et qui ont fait bloc autour de leurs collègues qui... dont les photos en tout cas ont été publiées au travers ce poste de Abraham Luaka Abouanga. Il dit ceci dans son poste: on vous regarde les gars, pas de BS. Ternir l'image du chef de l'État, nous vous avons à l'œil. Vous incarnez le ridicule de la presse congolaise. Donc voilà un message de la honte qu'un proche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au contraire, c'est ce message qui vient peut-être plutôt ternir l'image du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'image d'un État de droit, l'image d'un pays véritablement démocratique où la liberté des opinions est garantie. Voilà que quelqu'un vient s'ériger en défenseur du chef de l'État alors qu'il ne lui a pas demandé cela.
Le ministre québécois du Travail et de l'Immigration,
le Front de Libération du Québec,
révolutionnaire, organisé et armé.
Le ministre Laporte sera exécuté.
J'en étais à mes premières armes, on y allait sans filet, je me sentais observé, mais sans nécessairement en être intimidé.
Lecture des manifestes.
On sent bien qu'on est dans un état de choc dans un pays où ça n'est jamais arrivé.
Des acteurs, bien sûr qu'ils nous ont utilisés, mais en même temps, il fallait faire notre métier.
Cette lettre est adressée à M. Robert Bourassa. Mon cher Robert, premièrement, j'ai la conviction d'écrire la lettre la plus importante de ma vie.
Ils ont joué les médias avec beaucoup d'habileté puisqu'ils avaient des complices partout, dans ce monde-là, dans le monde intellectuel.
La crise d'octobre de 1970, tout comme les autres tentatives de révolution en Europe et en Amérique latine à la même période, a révélé une nouvelle facette du rôle social des journalistes et des médias.
au clair de la lune, mon ami Zongo.
En mai, vous recevrez par la poste une invitation à participer au recensement. Les données du recensement servent à planifier les programmes et les services dans votre collectivité qui soutiennent l'emploi, le transport en commun, les écoles, les hôpitaux et plus encore. Votre questionnaire est facile à remplir et vos renseignements demeurent confidentiels. Aidez à planifier l'avenir. Votre recensement, votre collectivité, votre avenir. Un message du gouvernement du Canada.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Bienvenue sur la chaîne YouTube de BBC Afrique. Retrouvez l'actualité du continent et du monde entier avec de la musique, du sport, de la culture et surtout des personnalités qui marquent votre quotidien. Alors, abonnez-vous pour revoir nos séries Femmes d'Afrique, Mode et Cuisine africaine, BBC Afrique sur YouTube. Abonnez-vous et partagez.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19?
Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Avec l'appli Les Indes Radios, la musique bouge avec vous. Où que vous soyez, où que vous alliez, écoutez nos radios et web radios en direct. Un titre vous plaît? Ne le laissez pas filer. Réécoutez-le instantanément ou ajoutez-le à votre playlist pour le retrouver plus tard. Déjà 2 millions de téléchargements. L'appli Les Indes Radios, la bonne idée radio.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prise de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Alors, on y va ? C'est un rendez-vous. Et oui, aujourd'hui, notre autrice invitée est Marité Morin, qui nous présente son dernier livre, Errance, aux éditions Prise de Parole. C'est le premier volet d'une trilogie fantastique qui explore les notions de réalité et d'existence avec sérieux, humanité et une touche de ludisme. Un roman qui nous plonge dans des aventures, des escapades, où les personnages principaux s'enfoncent dans des univers mystérieux où le temps paraît suspens. Notre invitée est cofondatrice de Vox Théâtre. Elle est autrice dramatique, romancière, scénariste, traductrice, conteuse et parolière originaire de la ville d'Ottawa. Elle a déjà publié plusieurs romans et pièces à jeunesse qui ont connu beaucoup de succès dans des écoles en Ontario. Sa série télévisée « Eau turbulente » à Radio-Canada en 2019 et 2020 a été finaliste au prestigieux International Format Award dans la catégorie « Best Scripted Format ». Marité a interprété plusieurs personnages mémorables dans des productions de Vox Théâtre, du Théâtre du Nouvel Ontario, Théâtre du Trillium et le Théâtre de la Vieille 17. En ces temps de pandémie, elle se consacre ces jours-ci à la création de nouveaux récits pour la scène et le virtuel, dont Contes extrêmes traduit des pièces de répertoire anglo-canadien et rédige la suite d'Errance. Mesdames, Messieurs, accueillons pour la première fois Marité Morin. Bonjour, je voudrais parler à Marité Morin, s'il vous plaît.
C'est moi-même.
Bonjour, ici Ricardère de CUTFM à Toronto. Très heureux de vous accueillir à notre antenne. En 34 ans de radio, c'est la première fois qu'on se parle. C'est incroyable, n'est-ce pas?
C'est absolument incroyable, oui.
Alors, votre tout dernier livre s'intitule « Errance », paru aux éditions Prise de Parole. Bravo, félicitations. Et selon la définition du dictionnaire français Larousse, le mot « errance » signifie « marcher longtemps sans but précis ». Et les synonymes d'errance équivaut à « nomadisme, vagabondage ». Alors, en lisant votre livre, on a l'impression que vous proposez au lecteur des textes d'un merveilleux scénario d'un road trip explorant ces larges autoroutes canadiennes et américaines, comme on aimait bien les emprunter jadis, au bon vieux temps, avant Covid, n'est-ce pas? Quel a été l'élément déclencheur qui vous a inspiré d'écrire ce livre?
Bien justement, c'est carrément parce que je suis une comédienne défroquée, on va se le dire comme ça. Je ne joue plus beaucoup maintenant, mais j'ai joué énormément et j'ai fait énormément de tournées. Donc, pendant 30 ans, j'ai pu voir des choses, rencontrer des gens. Et ce genre de parcours que l'on fait en tournée, surtout en jeune public, parce que très souvent, on jouait deux spectacles par jour à deux endroits différents. Mmh. Et donc, on voyageait beaucoup. Je croisais beaucoup de gens que j'aurais aimé connaître davantage. Et après, je partais. Je regardais défiler le paysage, réfléchissant sans réfléchir, parce que c'est ça que le voyage nous fait faire, très souvent. Il nous fait accumuler des images comme dans un rêve. Et donc, je me disais qu'il y avait là à chaque fois. Puis j'étais consciente à cette époque-là. C'était un matériel qu'un jour me resterait et dont je voudrais faire quelque chose.
Oui, et je persiste à signer hein, que c'est un bon scénario pour un film. D'ailleurs, vous êtes scénariste vous-même. Vous nous présentez des personnages un peu, je dirais, libertins. Il y en a même un de vos personnages qui se fait interpeller par une policière qui l'invite à la suivre dans un vieux motel délabré. Et comment ça se termine?
Ça se termine pas tout à fait. Parce que ce qui arrive, c'est qu'Anaïs, au départ, oui. Le personnage dont vous parlez, cette image de rat d'un ancien un ancien amant dont elle qui ont vécu une rupture 16 ans plus tôt et donc ils se sont jamais revus, ils n'ont jamais pu s'expliquer. Et Anaïs, tout d'un coup, qui est cet auteur qui cherche à rencontrer des gens, justement un peu mon alter ego, mais ce n'est pas moi, mais un peu ce personnage dont je parlais au début, qui est sur la route et qui cherche cette matière pour écrire. Anaïs se fait donc, au milieu de son voyage, voit cette image de Rod apparaître clairement dans sa tête, et un peu penser à lui depuis toutes ces années. Et elle est dans le sud des États-Unis et découvre que Rod, lui, est dans le nord de l'Ontario. Et l'axe nord-sud, pour moi, est intéressant et très important aussi dans le roman par rapport à la poésie et à l'imagerie de mon texte. Et donc, elle s'apprête à rentrer vers le nord, un pays qu'elle connaît très bien. Et elle se fait interpeller, comme vous le dites, par June, la policière. Et comme elle est très intriguée toujours par les gens qu'elle rencontre, elle va la suivre dans ce motel délabré et rencontrer un jeune garçon, Bobby, qui, lui, a une attraction pour elle intense et va la retarder dans sa quête de remonter vers le nord pour retrouver Rod. Et là, il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire parce que je suis dans un univers fantastique, j'ai tout fait une intrigue. Dont je ne veux pas trop révéler tous les films.
Mais j'adore. Excusez-moi, il y a le problème linguistique parce que vos personnages sont sans doute des francophones, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et arriver aux États-Unis, ça peut être un peu difficile de se faire comprendre, surtout par la police américaine.
Tout à fait. J'ai pris une décision éditoriale, si je peux me permettre, d'une part parce que. Petite parenthèse, ma sœur a rencontré l'homme de sa vie et lui ne parle pas anglais. Alors, lui, quand je lui avais fait lire mon manuscrit au tout début, parce qu'il était très fasciné par la thématique de mon livre, et il me disait, il faudrait mettre des traductions pour l'anglais, puis tout ça, parce que je comprends pas. Alors là, mon éditrice, elle a dit, je comprends pas pourquoi tu as mis des traductions pour des passages en anglais. Et à un moment donné, je me suis dit, j'assume le fait que j'écris en français et que le lecteur va comprendre qu'évidemment, les dialogues, pour une large part aux États-Unis, se passent en anglais. Pour ne pas alourdir inutilement le récit. C'est uniquement pour ça. C'est une décision que j'ai prise dans les derniers stades de mon écriture.
En tout cas, nos auditeurs qui nous écoutent à l'étranger, parce que vous savez, ils sont nombreux en Australie, en Afrique, à l'île Maurice, en Europe, en Bretagne, je les invite à lire ce livre parce que c'est vraiment un voyage dans l'imaginaire. Et d'ailleurs, permettez-moi de plonger un peu les auditeurs dans votre univers que je trouve formidable, extraordinaire. Vous écrivez, et je cite... Se trouve dans mon histoire comme un objet égaré, comme un rêve dont j'aurais oublié le détail le plus important. Le voyage est propice au flottement en tout genre. Qui se déplace, le décor ou moi? C'est affaire de perception, de conviction aussi, car si moi, je ne crois pas mes histoires, qui les croira? Le mot qui me frappe, dans ce texte, c'est ce trou dans mon histoire, comme un objet égaré. Que voulez-vous dire exactement par cette phrase?
C'est le drame d'Anaïs dans le premier volume, parce que, évidemment, je me propose d'écrire une trilogie. Avec cette histoire, la fin est ouverte dans le premier volume. C'est le drame d'Anaïs dans le premier volume, ce trou dans son histoire. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé quelque chose. 16 ans plus tôt, 15 ans plus tôt. Et elle se souvient parfaitement de ce qui s'est passé avant le trou, et elle se souvient parfaitement de ce qui s'est passé après le trou, mais ce moment-là, qui est le moment clé de l'histoire, elle ne s'en souvient pas. Et ça, c'est sa quête parallèle à celle de Rod, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments de son histoire, et elle essaie d'écrire et réécrire pour essayer de se rappeler ce moment. Et elle va le trouver, le moment, ce trou dans son histoire qui est si important pour elle. Elle ne va le trouver qu'une fois remontée vers le nord. Et je ne peux pas vous en dire plus.
Oui. Diriez-vous qu'on est en train de perdre un peu cette tradition, je ne dirais pas nécessairement de vagabondage, mais de profiter de l'été, parce que l'été est tellement court en Amérique du Nord, au Canada, de profiter de l'été pour explorer les provinces canadiennes ou les grands espaces aux États-Unis. Pensez-vous qu'on est en train de... Surtout avec le confinement, ça a chamboulé notre vie. Pensez-vous que notre vie est totalement changée et qu'on n'a plus cette attirance, cette envie, ce goût de découvrir les territoires du Canada ou des États-Unis en ces temps-ci?
En ces temps-ci, c'est sûr qu'on a même pas la possibilité de le faire en ce moment ici en Ontario. Je vais le mentionner parce que comme on est diffusé à l'international, nous, on a des règles, si on est très strictes, même par rapport aux déplacements dans les régions, c'est pas évident nécessairement. J'en parle souvent avec une de mes amies écrivaines de cette espèce de fascination qu'on a pour la route d'exploration tout azimut vers ces paysages fascinants. Parce que pour moi aussi, la tournée m'a permis de voir des choses que je n'aurais pas pu voir dans un travail dit soi-disant normal. J'ai vu des immensités des grands lacs, ça m'a chaviré, ça a changé ma conception du monde, et je trouve que je sais pas ce qui va se passer après la pandémie. Est-ce qu'on va être plus prudent? Parce que les voyages, évidemment, c'est source de toutes sortes de contacts.
Oui.
Bon et mauvais. Bon et peut-être moins bon. Et donc, il reste pour moi une fascination de prendre la route encore. C'est sûr que depuis un an et 15 mois, la route, je l'imagine ici, c'est un peu comme Hergé. L'anecdote d'Hergé me fait toujours sourire parce que quand Tintin voyageait beaucoup, Hergé ne bougeait pas. Quand Hergé s'est mis à voyager, Tintin est devenu immobile à Moulinsart. Il y a comme cette espèce de on dirait que ça prend toujours cet équilibre.
Oui. En tout cas, moi, ça me manque énormément. Errance, le tout dernier livre de Marité Morin, paru en avril 2021 aux éditions Prise de Parole, 209 pages, les récits d'Anaïs et de Rayon de Lune vous transporteront, madame, monsieur, dans l'univers de notre autrice. C'est le premier volet d'une trilogie fantastique qui explore les notions de réalité, d'existence avec sérieux, humanité et une touche de ludisme. Vous avez plusieurs autres romans et des récits à votre actif. On peut les retrouver sur le site prisedeparole.ca, même des livres, des contes, des productions qui ont largement tourné dans les écoles où elles ont été chaleureusement accueillies par les jeunes publics en Ontario. Comment voyez-vous l'avenir justement de cette littérature, de la poésie chez les jeunes franco-ontariens en 2021 et surtout en ces temps de pandémie?
Je pense qu'on doit laisser aux jeunes la possibilité de s'exprimer dans la langue qui leur convient. C'est-à-dire que pour moi, l'expression est plus forte que tout. On a ici, je crois, de plus en plus une hybridité dans notre langue française qui peut être soit vue comme une richesse ou une pauvreté. Et je pense que la vérité se trouve entre les deux. Je pense qu'on a un devoir de pouvoir se faire comprendre. Et aussi, on a un devoir encore plus essentiel d'exprimer des choses. Et je trouve qu'on a beaucoup de stress sur les jeunes franco-ontariens par rapport à toute cette question d'insécurité linguistique. Et je pense que si on laissait les jeunes s'exprimer à l'extérieur de cette notion-là de parler parfaitement le français, d'ailleurs personne parle parfaitement le français, personne est exempt de faute ou d'erreur. Alors, laissons les jeunes s'exprimer, laissons-leur exprimer leurs univers. Plus tard, on pourra toujours parler de l'outil ou de la langue, et on peut en parler de maintenant aussi, mais il faut corriger des choses, on le fera par la suite. Mais l'essentiel, c'est d'abord l'essentiel qu'on doit exprimer, je pense.
Dans ma réflexion. Oui. D'ailleurs, j'aimerais vous inviter pour une autre émission, on parlera, parce que c'est un sujet qui nous intéresse, mais j'aimerais qu'on vous pose la question suivante. Est-ce que c'est très compliqué pour vous, en tant qu'écrivaine, artiste, vous êtes une grande rêveuse, on peut voir à travers vos écrits, est-ce que cette période de pandémie vous complique la vie, surtout dans la création?
Ça complique la vie. Je peux pas dire le contraire. Je dirais que les premiers mois pour moi ont été très difficiles à gérer, les 6 premiers mois, parce que je suis une femme de scène d'abord et avant tout. J'ai écrit pour la télé, c'est sûr, mais j'ai écrit pour plein d'univers. Donc, et j'étais retournée un petit peu plus vers le théâtre juste avant la pandémie et. Nous, on est encore une industrie fermée. On peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Mais j'ai commencé à explorer d'autres univers. J'ai acheté de bons micros, j'ai acheté des caméras.
Ah oui?
Oui, parce que Créer pour moi, c'est réellement ma raison d'être. Ouais. Pendant les 6 premiers mois de la pandémie, je me suis rendu compte à quel point c'était presque une drogue pour moi, cette création-là quotidienne, de créer des univers, d'inventer des histoires, de rencontrer l'autre et d'essayer de raconter son histoire. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui. Est-ce que justement vous avez des plans pour exporter vos œuvres à l'étranger? Parce que vous méritez d'être connu à l'étranger, à mon avis.
Je vais essayer de voir comment on peut s'y prendre, parce que c'est comme l'attaché de presse de Prise de parole disait, il y a 20 000 livres qui sont lancés chaque année.
Mm-hmm.
Alors, comment on se démarque? Comment on fait ça? J'en suis là. J'aimerais ça, c'est sûr, avoir un large auditoire, parce que je pense que je suis une humaniste avant tout. Je ne suis pas quelqu'un qui voit l'autre. Je vois l'autre pour la personne qui est devant moi. Donc, c'est sûr que je pense que c'est un discours qui peut résonner largement au-delà de mes frontières.
Ouais.
Mais bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main si jamais, le moyen.
On ne sait jamais qui nous écoute, hein, on ne sait jamais qui nous écoute. Alors j'invite tous les auditeurs à lire votre livre, un vrai scénario pour vous égarer en toute sécurité en cette période inédite, Errance de Marité Morin, qui est notre invitée aujourd'hui. Elle a interprété plusieurs personnages mémorables dans des productions de Vox Théâtre, du Théâtre de Nouvelle-Ontario, du Triangle Vital, de la Bébite Poétique et du Théâtre du Trillium, du Théâtre de la Vieille 17 et du Théâtre de sable. Il y en a des théâtres hein, qu'on ne connaissait pas. Elle est aussi cofondatrice de Vox Théâtre, autrice dramatique, romancière, scénariste, traductrice, conteuse et parolière, que vous dites, vous ne jouez plus tellement maintenant. Hein.
Je ne joue plus tellement. J'accepte encore de jouer parce que j'y prends immensément plaisir. C'est tellement plaisant de se mettre à la place de l'autre,
oui,
et d'explorer une autre perspective que la sienne.
Alors j'ai une petite antenne là qui me dit que vous vous consacrez ces jours-ci à la création de nouveaux récits pour la scène et le virtuel, dont Contes extrêmes traduit des pièces du répertoire anglo-canadien, et vous rédigez aussi, je pense, la suite d'Errance.
Oui, j'écris la suite cet été, j'ai très hâte d'ailleurs, parce que j'ai toute mon histoire dans ma tête, c'est juste de m'asseoir et puis vraiment de l'écrire. Alors, je suis très excitée de le faire. Surtout que les premiers commentaires sur les gens qui l'ont lu, là, ont lu le premier volume, sont très emballés. Donc, j'ai hâte de retrouver cet univers.
Errance de Marité Morin, madame, monsieur, allez sur le site de prisedeparole.ca. Marité Morin, je vous remercie infiniment pour cet excellent roman. Revenez nous voir quand vous le voulez. Je vous souhaite bonne chance et que la force soit avec vous.
Avec vous aussi. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Moi, je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque. La surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, notre insouciance est repue. C'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent fumer tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
stop l'autoroute. Pour manger de la chenoute, c'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond.
RFI, toute la diversité du monde.
CIUT 89.5, Toronto.
Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents.
Liberté de la presse, journaliste en danger.
Senti de joie.
Lundi le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, le thème est l'information comme bien public. Est-ce que la liberté de la presse est respectée dans votre pays, votre région, votre province? Quels sont les dangers d'être un journaliste d'investigation? Témoignage choc d'une journaliste en Bretagne et le rôle des journalistes et des médias revisité lors de la crise d'octobre au Canada il y a 51 ans. Cette édition spéciale est réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24, France Info, l'UNESCO, Reporters sans frontières. Lundi 3 mai. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse avec CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui lui?
Un jour, une question. C'est quoi les fake news? L'expression anglaise fake news signifie fausse nouvelle. Elle désigne des informations fausses, des infos qui, souvent, sont volontairement truquées. L'une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis. Un autre exemple est une vidéo de l'aéroport de la ville de Miami inondée après le passage de l'ouragan Irma. En fait, il s'agissait d'une vidéo d'un homme marchant dans une zone remplie d'eau de l'aéroport de Mexico, la capitale du Mexique. Les fake news ont toujours existé. Il y a 80 ans, un comédien avait effrayé les Américains en faisant croire à une invasion martienne à la radio. Mais aujourd'hui, elles ont beaucoup d'impact à cause de la puissance des réseaux sociaux. Sur ces réseaux, tout le monde peut diffuser des informations sans obligation de les vérifier. Or, pour être un citoyen libre et responsable, chacun doit apprendre à vérifier ses sources, qu'elles proviennent d'Internet ou d'autres médias. De nombreux journaux se sont donc lancés dans le décodage des fake news. Des enseignants mettent aussi en place des cours d'éducation aux médias pour développer son esprit critique. Il s'agit par exemple d'étudier des photos pour savoir si elles sont truquées. Plutôt que de croire n'importe quelle info sans réfléchir, un minimum de prudence est désormais nécessaire.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook, Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Yeah. Moi, je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Nédor Fondation, c'est mieux, mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Nédor Fondation Diversity of Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lindor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lindor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix-Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Attention, prêt, déguster. FCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur les Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses et équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille, Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin, mais tu t'es mis à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi, chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie, chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Eh oui, dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. C'est la belle chanson de Grand Corps Malade et Louane, derrière le brouillard. Eh oui, c'est une chanson qui cartonne en ce moment en France. Je rappelle qu'à la fin de l'émission, une autre nouveauté avec l'artiste haïtien qui fait carrière à Montréal, Jerry Mr. J, de gracieuseté de Tola Lito Music à Montréal. Mais pour tout de suite, notre prochaine invitée, Francine Watkins, candidate aux élections consulaires des conseillers des Français de l'étranger 2021. Ne partez pas. Élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. Les conseillers et conseillères des Français de l'étranger sont vos élus de proximité. Ils vous représentent notamment au sein des conseils consulaires et participent à l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Il y a 7 listes de candidats pour les 4 postes de l'Ontario et du Manitoba. Les citoyens français vivant à l'extérieur de la France ont rendez-vous le 29 mai prochain pour les élections consulaires. Ils choisiront des compatriotes qui les représenteront auprès du consulat de la province ou de la région où ils sont installés. Ils sont plus de 10 000 électeurs sur le grand territoire de l'Ontario et du Manitoba qui ont droit de vote. Mais se sentent-ils tous concernés par ces élections? Voilà la grande question que nous aimerions poser à notre invité. Nous avons le plaisir d'accueillir Francine Watkins, qui dirige la liste non le plus apolitique. Ensemble, pour vous, la défense de nos intérêts au cœur de notre action. Une liste indépendante au service de tous les Français, Françaises de la circonscription. Francine Watkins est chef d'une entreprise de traduction à Toronto. Elle est à la tête d'une liste de personnes dont l'action communautaire et sociale compte beaucoup. Intégrité, solidarité, diversité, engagement citoyen et écologique. Elle propose de défendre les acquis sociaux ainsi que la justice sociale et fiscale. Retrouvez le programme de Francine Watkins sur francinewatkins2021.com ou visitez tout simplement notre site popourichaud.com.
Allô?
Bonjour, Francine Watkins.
Oui.
ravi de vous recevoir à l'antenne. Alors, en cette période inédite, la radio ouvre son antenne d'une façon exceptionnelle aux candidates, candidats des prochaines élections consulaires, des conseillers des Français de l'étranger, qui auront lieu le 29 mai prochain. Alors, il faut rappeler aux auditeurs que ces élections consulaires devaient avoir lieu l'an dernier, hein, mais elles ont été reportées à cause de la pandémie. Et les conseillers.
Ça devait avoir lieu en mai 2020.
Oui, et les conseillers sortants ont donc siégé pendant 7 ans au lieu de 6 ans.
C'est ça.
Et vous êtes une de ces conseillers ou sortants. Vous êtes conseillère sortante après surtout une dernière année très mouvementée, n'est-ce pas? Pour ne pas dire une année de crise, vous avez dû innover. Vous êtes même passé à notre antenne à quelques reprises. Qu'est-ce que vous entendez un petit peu sur le terrain et quel est le bilan que vous faites justement et pourquoi vous vous représentez pour un autre mandat?
Écoutez, premièrement, si l'on parle de mon bilan, je suis vraiment une élue de terrain. Donc moi, ce qui m'a intéressée pendant ces 7 dernières années, c'est de vraiment servir mes compatriotes, d'être à l'écoute de leurs préoccupations. Donc, ce bilan, il comporte différents volets. Il y a eu les activités consulaires. Donc, j'ai été vice-présidente élue à 3 reprises, vice-présidente du conseil consulaire. Il y a eu toute une série de réunions auxquelles j'ai toujours participé, qu'il s'agisse des bourses scolaires, des affaires sociales, de la sécurité, de la citoyenneté. À des réunions aussi consulaires, c'est l'ensemble du réseau qui se réunit une fois par an à l'ambassade de France à Ottawa, la participation aux réunions d'attribution des subventions staff, c'est-à-dire le tissu associatif des Français de l'étranger, qui accorde donc des subventions aux associations françaises de la circonscription. Avant ce processus staff, il existait une réserve parlementaire au début de mon mandat, donc je suis arrivée à obtenir plus de 10 subventions pour différentes associations de nouveau de l'Ontario et du Manitoba. Et puis je me suis aussi rendue à Paris de façon bénévole pour assister à certaines réunions de l'Assemblée des Français de l'étranger. Je n'y étais pas tenue, mais j'ai pensé qu'il était bon que j'y aille simplement pour pouvoir connaître les différents acteurs et trouver des relais simplement pour répondre à mes questions et aux questions de mes compatriotes. Il y a les activités sur le terrain, donc ce sont des déplacements, des visites annuelles à Winnipeg, des visites plusieurs fois par an à Ottawa, des soutiens des centaines de compatriotes puisque j'ai organisé des permanences consulaires tous les mois. J'ai aussi organisé des permanences parlementaires à l'occasion de la visite de sénateurs de nouveau pour porter certains sujets à leur attention. Par exemple, grâce à cette intervention, à l'intervention de la sénatrice Conway-Mouret, nous avons eu droit à une revalorisation du salaire des employés du consulat de France à Toronto et en Ontario, simplement à la lumière du coût de la vie dans la province. Participation aux assemblées générales et aux réunions de l'Association Français du Monde. Enfin, c'est tellement, il y a tellement de choses, tellement de réunions et d'activités auxquelles j'ai participé, qu'il s'agisse d'activités sur le terrain, d'activités sociales, d'activités politiques, d'activités éducatives, bien entendu, les réunions sur les bourses scolaires, les réunions des conseils d'établissement du lycée Claudel ou du lycée français de Toronto, les activités écologiques et puis aussi les activités simplement bénévoles, le bénévolat personnel à titre personnel et de levée de fonds pour aider certains compatriotes en difficulté.
Alors il faut rappeler aux gens que vous êtes ici depuis très longtemps. Nous on s'est connus dans une autre vie, on ne dévoilera pas le secret ici, mais Non, mais c'est ça, c'était très important quand vous parlez du terrain et vous parlez aussi de ce contact avec vos compatriotes qui sont sur notre territoire, un très grand territoire d'ailleurs. Hein. Alors, vous avez mené ces permanences consulaires, je rappelle aux gens, de chaque mois, hein, le vendredi, premier vendredi de chaque mois de 17h à 18h. Et depuis le début de la crise, qu'est-ce que vous avez entendu comme doléances, les urgences que vous recevez le plus des Français de votre circonscription?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a vraiment la question des retraites, parce que les gens, évidemment, veulent toucher leur retraite française. Donc ça, c'est important. Ils ont besoin aussi de produire chaque année un certificat d'existence qui doit être signé par les autorités, par exemple le service de la mairie ou la police. En ce moment, c'est excessivement difficile puisque tout est fermé. Donc, ils doivent faire appel à un avocat. Quelquefois, bon, moi, je me suis arrangée parce que je connaissais certaines personnes pour leur faciliter aussi la vie, pour que ça ne soit pas des coûts excessifs. Il y a eu les problèmes fiscaux aussi, la fiscalité des Français de l'étranger, puisqu'on a eu quand même un projet de loi qui aurait augmenté pratiquement la fiscalité de 300%. Il y a eu vraiment une mobilisation de notre part pour finalement que le gouvernement fasse machine arrière. Et finalement, pour l'instant, voilà, ce projet n'est qu'il puisse se faire aider. On est dans une situation très inédite. Hein. Là, en ce moment, on est en train de traiter les cas des lycées français, puisque les épreuves du baccalauréat ne pourront pas se passer si les écoles restent fermées dans les locaux. Donc là, ça pose un très, 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 très gros problème.
Alors, deux mots rapidement pour justement ce baccalauréat. Vous demandez au gouvernement français de faire une exception, hein, et d'autoriser que les élèves soient évalués selon le principe du contrôle continu.
C'est cela. Mais en fait, ce problème, pour l'instant, c'est le problème des deux établissements français qui sont dans la circonscription, hein, à savoir le lycée Claudel et le lycée français de Toronto. Mais demain matin, ça peut être très bien les établissements en Inde, étant donné la situation sanitaire, oui, ou au Brésil. Donc finalement, lorsque des pays vont être confrontés à des mesures sanitaires beaucoup plus strictes, à des fermetures d'écoles, etc., je pense qu'il est de mise d'autoriser ce contrôle continu. Et dans le cas des deux établissements français de la circonscription, il faut quand même mentionner que ces deux établissements, eh bien, ils ont un taux de 100% au baccalauréat avec un nombre incroyable de mentions. Donc, ce sont des établissements d'excellence avec des élèves qui ont un très haut niveau. Donc, il faut aussi pallier, atténuer l'angoisse et des élèves et des parents. Donc bon, moi j'ai écrit à certains sénateurs qui ont contacté l'AEFE, qui ont écrit au ministre simplement pour justement préconiser l'adoption de ce contrôle continu cette année, puisque c'est une année exceptionnelle. Ça s'est passé en 1969. En 1968, quand il y a eu les problèmes à Paris et la révolte, disons, des étudiants, eh bien, le baccalauréat, c'était un grand oral. Mmh. On a donc fait des adaptations. Donc, ces accommodements, comme on dit au Canada, ils sont possibles. Il faut simplement qu'il y ait une volonté. Et je crois que le gouvernement français va être confronté à cette situation dans bien d'autres pays.
Parlez-nous un petit peu brièvement du rôle de ces personnes qui vous entourent, qui vous accompagnent dans cette aventure.
Écoutez, je les ai choisis justement, premièrement, parce que c'était des gens que je connaissais, des gens de nouveau de terrain qui partageaient les mêmes valeurs que moi, soit celles de justice sociale et fiscale, d'intégrité, de solidarité, de diversité et d'engagement associatif, citoyen, écologique. Donc, mon deuxième de liste est Yann-Alexandre Girard, qui est le président de France Ottawa et qui est un leader de la communauté française dans la région de la capitale nationale.
Et qui est déjà passé à notre émission à plusieurs reprises.
Cadre supérieur au Centre hospitalier universitaire d'Ottawa, donc ouais. Un membre éminent de cette communauté ottavienne.
Mais...
Oui. Solange Strom, qui est donc la troisième de liste, est chef d'entreprise, Elle est également conseillère du commerce extérieur pour la France depuis 2010, donc depuis plus de 10 ans. Elle a assumé la présidence de la Chambre de commerce française à Toronto et elle a aussi siégé au conseil d'administration de l'Alliance française et les chevaliers de l'Ordre national du mérite. Donc, de nouveau, un bel engagement professionnel, un bel engagement aussi citoyen. Thomas Brossa, quatrième, est spécialiste en ressources humaines auprès d'un grand cabinet international. Il est membre actif de l'Association Français du Monde à Toronto. Il a occupé les fonctions de vice-président de cette association au niveau local. Il a siégé au Conseil national de l'association à Paris.
Oui.
Sabine Soumaré, donc elle est directrice des communications et du marketing à l'Institut de la diversité de l'Université Ryerson. Elle a été conseillère principale en communication et porte-parole de la procureure générale et ministre des Affaires francophones de l'Ontario. Et elle est actuellement présidente ou coprésidente du conseil d'administration de l'Alliance française de Toronto. Ça, c'est tout nouveau.
Oui.
Frédéric Rivière, lui, est directeur d'école et cadre d'un conseil scolaire francophone à Windsor. Il est très attaché, lui aussi, aux valeurs et à la culture française. Et il participe aussi activement à la vie communautaire de la ville. Enfin, Bénédicte Bruder est interprète de conférences et elle travaille pour le gouvernement du Canada depuis de très nombreuses années. Elle a reçu la médaille du Jubilé de la Reine pour son action humanitaire. Donc voilà.
Oui. Alors, bravo. Il y a une question que nous avons reçue, d'ailleurs plusieurs questions, mais une question qui revient sans cesse. Question de Morgane. Comment voter par procuration?
Écoutez, cette fois-ci, vous avez deux choix. Donc, vous pouvez vous présenter, prendre rendez-vous au consulat général de France à Toronto pour établir une procuration en personne. Il vous faudra à ce moment-là avoir le nom d'une personne qui acceptera de voter en votre nom. Et d'ailleurs, vous vous entendrez à ce moment-là avec cette personne pour décider pour quelle liste vous allez vouloir voter. Ou pour la première fois, vous allez pouvoir établir une procuration en ligne.
Oui.
Et ça, le gouvernement français a déjà envoyé pas mal d'informations à ce sujet. Il suffit simplement de se rendre sur le site du consulat général de France à Toronto.
Et il y aura un temps pour voter par Internet aussi, hein?
Oui, alors le temps pour voter par Internet, pour la première fois d'ailleurs, ce sera du 21 au 26 mai, à compter et jusqu'à midi heure de Paris. Donc il faut faire très attention, le 26 mai, ce sera jusqu'à midi heure de Paris, donc 6h du matin à Toronto.
Oui, et pour l'inscription, vérifier si on a la bonne adresse, le bon nom dans le système, c'est déjà passé, hein?
Pour s'inscrire, oui, c'est déjà passé. Ouais. En fait, vous pouvez quand même vérifier vos données, mais vous auriez dû le faire déjà simplement pour votre adresse de courriel et votre numéro de téléphone, puisque pour voter par Internet, il vous faut avoir un ordinateur ou une tablette et un téléphone portable, puisque vous allez recevoir deux codes, un qui sera sur votre ordinateur tablette et l'autre qui vous sera envoyé par SMS. J'aimerais simplement indiquer que nous avions eu droit à un test grandeur nature en préparation des élections de mai 2020. Depuis lors, la société qui devait administrer le vote par Internet a fait faillite, elle a été reprise par une autre société. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres tests grandeur nature. Mais à l'époque, on nous avait demandé de faire très attention parce que ces codes ne s'ouvraient qu'une seule fois. Donc, assurez-vous de photographier ou de les reproduire ou de les écrire sur un bout de papier pour pouvoir voter ensuite.
Et ensemble pour vous, la défense de vos intérêts au cœur de notre action, c'est le slogan de notre invitée Francine Watkins, qui est conseillère sortante. Elle vit à Toronto depuis très longtemps, très connue, très impliquée dans la communauté francophone et française. Elle est à la tête de la liste indépendante au service des Français françaises pour Toronto, l'Ontario et le Manitoba. Comment faites-vous justement, Francine, pour atteindre les Français en cette période de pandémie?
Écoutez, là nous avons eu beaucoup de chance. Premièrement, donc j'ai continué moi à publier des bulletins d'information sur la liste électorale. Donc bien entendu, ce ne sont malheureusement que les Français et les Françaises qui sont inscrits. Donc je dirais probablement moins de la moitié des Françaises et des Français qui vivent dans la circonscription. L'autre chose que j'ai organisée, que je suis en cours d'organisation, disons, ce sont encore des réunions d'information, mais par le biais de Zoom. Donc nous en avons fait une avec la sénatrice Conway Mouret sur justement le retour en France, qu'il soit permanent ou temporaire. Et là, nous organisons ce jeudi une réunion d'information sur la thrombose et la Covid. Et la semaine prochaine, le 4 mai, une autre conférence de nouveau sur la Covid, mais sur plus les variants. Et le 8 mai, une conférence avec le sénateur Jean-Yves Lecomte sur la fiscalité, les retraites, la carte vitale, pour faire le point sur la situation et l'actualité parlementaire.
Alors envoyez-nous toutes ces informations. On mettra ça sur notre site internet. Cela nous fera grand plaisir. Et je rappelle que les gens peuvent aller visiter votre site web. C'est francinewatkins2021.com. Oui. Alors, on va parler rapidement pour terminer cette activité du jeudi 29 avril. C'est une réunion d'information publique virtuelle sur le thème thrombose et Covid-19 de 18h à 19h. Comment s'y prendre? Est-ce qu'il faut s'inscrire absolument?
Oui, il y a un lien Eventbrite. Et je peux vous l'envoyer,
voilà.
Ou bien il sera sur le site, et il suffit simplement de s'inscrire, et 24 heures avant, eh bien nous enverrons le lien aux personnes inscrites, et vous pouvez poser vos questions. Vous préférez les avoir à l'avance pour que le conférencier puisse bien se préparer. Et si le temps le permet, à ce moment-là, nous accepterons aussi les questions durant la réunion.
Oui, et je rappelle aux gens qu'en 2019, il y a eu un bond dans le nombre de Français qui ont décidé de venir s'installer, s'établir en Ontario. Avez-vous une idée rapidement du nombre de ressortissants français qui sont sur notre territoire?
Difficile. Pour l'instant, à peu près le nombre d'inscrits, on en est à 12 000, mais on pense qu'il y a au moins le double, si ce n'est plus. Si les gens ne s'inscrivent pas, s'ils ne donnent pas signe de vie et ils n'essayent pas de se rapprocher du consulat, c'est excessivement difficile.
Oui.
Donc en fait, nous, on encourage aussi les Français. Il faut savoir que plus il y a aussi de Français inscrits sur la liste électorale, plus grand sera aussi le nombre d'élus de proximité que sont les conseillers des Français de l'étranger. Leur nombre est fonction du nombre d'inscrits sur la liste électorale. Donc à l'heure actuelle, nous ne pouvons avoir que quatre élus, même si probablement le nombre de Français et de Françaises est beaucoup plus important.
Oui, et il faut rappeler aux gens que les Français sont ici depuis plus de 400 ans. Hein. Les gens qui nous écoutent à l'étranger, ils pensent que c'est une nouvelle aventure, c'est tout récent, mais non, l'immigration française, ça dure depuis 4 siècles.
Ça dure depuis 4 siècles, et puis je dois dire qu'il y a vraiment une très belle résilience qui m'a été donnée d'aller au Manitoba, donc ouais, d'aller à Winnipeg, mais surtout dans une petite localité qui s'appelle Saint-Claude.
Mm-hmm.
Et vraiment, ce sont des Français qui sont au milieu d'une mer d'anglophones, et cette résilience et cette volonté de préserver la langue française et de vivre en français est absolument extraordinaire.
Oui, Francine Watkins, c'était tout un plaisir de vous recevoir. Bien le bonjour à vos collègues et merci pour tout le travail accompli, surtout cette dernière année. Je sais que ça a été vraiment beaucoup de défis, n'est-ce pas, pour vous et vos collègues?
Oui, ça a été très difficile, mais finalement, je dois dire qu'on est quand même une équipe soudée, qu'il y a une bonne ambiance qui régnait parmi mes collègues conseillers des Français d'étranger. Donc en fait, on s'est soudés, on s'est solidarisés.
oui. Solidarisé, on s'est fédéré pour pouvoir servir au mieux nos compatriotes.
Et j'invite encore une fois aux auditeurs d'aller visiter votre site web. Et là, il y aura tous les renseignements, votre programme, vos priorités, n'est-ce pas? Francine Watkins, 2021.com et tous les renseignements, vos liens seront sur notre site popourichaud.com. Je vous remercie encore infiniment. Bon courage et que la force soit avec vous, Francine.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et oui, si vous souhaitez communiquer avec Francine Watkins, vous pouvez lui écrire directement à francinewatkins2021@gmail.com. Et pour découvrir les prochains rendez-vous de notre invité, veuillez visiter notre site popourichaud.com. Pour tout savoir, c'est plus simple. Et pour la petite histoire, la présence française en Ontario remonte officiellement au 1er août 1615, date de la rencontre entre Champlain et le chef Huron Wendat, maintenant appelé Penetanguishene. Champlain a passé une année en sol ontarien en 1615 afin de tisser des liens avec des Hurons Wendat et établir les bases de la traite et des fourrures en Ontario. Et je vous rappelle qu'en 2019, on dénombrait près de 13 386 Français en Ontario et au Manitoba inscrits au registre des Français établis hors de France. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage intercontinental. Merci à nos partenaires, Fondation Sylvanie Lindor, Édition Prise de Parole. Professeur Elie Bouraoui, bien le bonjour à vous et merci encore pour vos commentaires. Ciné Franco, Le Créfaux, d'ailleurs sa directrice, professeur Emmanuel Le Puchon-Wortzmann sera des nôtres très prochainement pour nous présenter son dernier livre, Défis et richesses des classes multilingues, construire des ponts entre les cultures. Merci à Marité Morin pour son livre Errance aux éditions Prise de Parole, une voix que nous allons entendre sûrement réentendre à cette antenne. Francine Watkins, 2021.com, merci et bonne chance. DJ Devera, RFI, Europe 1, TV5 Monde, l'UNESCO, Telalito Music à Montréal et Elisabeth Drapeau, merci pour votre gentillesse. Le temps presse, je n'ai pas le temps de vous présenter toutes les activités de nos partenaires en cours. Veuillez visiter notre site popourichaud.com et découvrir les rendez-vous littéraires de la communication, prise-de-parole.ca, des ateliers gratuits sur la santé mentale. Et surtout, n'oubliez pas de nous donner un petit coup de pouce si possible lors de notre campagne de financement du 10 au 16 mai prochain. C'est très très important pour la survie même de la seule, l'unique émission en langue française sur CUT-FM. Allez, je vous laisse avec la toute dernière chanson de l'artiste haïtien qui fait carrière à Montréal, L'Agent pour l'argent, de Jerry Mr. J, featuring DJ Abuelo et Black Tiger, qui prêtent leur voix sur cette chanson avec une tonalité rap. Ensemble, ils dénoncent plusieurs problématiques telles que la corruption, l'instabilité politique, la désillusion de la richesse, de cette folie, de l'argent qui rend nos sociétés tristement déshumanisées. Définitivement un texte très 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 engagé. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Allez, place à Jerry Mr. J et sa dernière chanson, L'Agent, de featuring DJ Abuelo et Black Tiger. Allez, ciao, ciao, ciao. Jerry Mr. J, Bribomse, Tolalito Music. L'agent fait faire folie, l'agent fait nous crazy, l'agent fait faire tout ça qui va bon pour l'esprit. L'agent fait faire folie, l'agent fait nous crazy, l'agent fait faire tout ça qui va bon pour l'esprit. L'agent couvre mais qui gagne sans mettre les sous ça qui nous sent. L'agent courit derrière, l'agent fait pop sentir pas important. Besoin l'agent pour faire mes bouches médias, chaque jour les mêmes accents, yeah. Besoin l'agent pour faire mes gels l'état, en créant ça pour faire des cahiers. L'agent distribué dans le ghetto, l'agent met division dans le ghetto. Pour détasser c'est l'agent qui fait défaut, l'agent dans le ghetto qui fait écho, yeah. L'agent n'a mes petits jeunes si mes âmes tout côté, vide innocent dans la rue tout côté, drame tout côté, haine tout côté, police.
distribution, ces hommes seulement qu'à distribuer. L'argent fait nous faire folie, l'argent fait nous crazy, l'argent fait nous faire tout ça qui est pas bon pour l'esprit. L'argent fait nous faire folie, l'argent fait nous crazy, l'argent fait nous faire tout ça qui est pas bon pour l'esprit.
C'est une clé universelle, des fois tellement rasé on se trouve un don universel. C'est pas tout comme qui pop, mais c'est tout comme qui belle. L'argent qu'a fait fucked up, mais c'est ça qui même tue pour faire. Si vous remarquez bien, ou après c'est mon gris, je qui piche. C'est ça qui fait pop, y'a tellement que bon qu'il y a un jour, y'a une vie riche. Ah oui, l'argent gâte des familles, l'argent gâte des hommes, l'argent résout tout problème, l'île commence à sauver, pas qu'à vivre sans lit. Même j'ai fait comme la même dans dormi. Comme bagaille, c'est business qu'on y a sous, ap chez moun pour faire peine, dit don't call me. Ya her, chérie, s'ouvre comme la m'cap boli. Mais l'aime vine toucher à soi, y'a pas vivre, repose, wap dormi. I be falling like I'm Kobe, 24-8. Bush move, only ain't no funny type shit. How you get it like that? Play it like that. I just hung up on your bitch, but she gon' call me right back. I know that's right, know that's right.
L'argent fait nous faire folie, l'argent fait nous crazy, l'argent fait nous faire tout ça qui est pas bon pour l'esprit. L'argent fait nous faire folie, l'argent fait nous crazy, l'argent fait nous faire tout ça qui est pas bon pour l'esprit.
L'argent faut pas qu'à bon maï, faut pas qu'à bon bris sous son toque comme si m'vini ou à point bicha. Fait être crayon point tout taille, si ou en fifi n'avait m'gagant sous sa patte misé pour l'argent fait pas. Ça m'a qu'à changer pas joie. Mettre l'on dans l'ombre à joie. Quand tellement populaire, me sentir m'baki l'argent, c'est qu'à joie. Mettre sol dans ta joie. Plus qu'on pour la joie. Que pour moi c'est Jessie et pour madame ou moi c'est ta joie. J'en fais pas qu'à petit vrai. Fais pas gagner mes six pieds. Ou à j'en tout sauver ou mettre quoi m'baki aperçu vrai. Décider ça ou décider. Fais pas qu'à crazy vrai. Ou qu'à te pouvoir dans mon tiers, mais pas j'aime qu'à y'en Jessie vrai. Fais la jambe, pas jambe, pas jambe. Pas tant que pas qu'à vendre nous. Il est facile pour m'qu'à vendre nous. Mazoura y'en pas qu'à vendre nous. Ou tu vois ce qu'il y a l'autre qui pue rapide leur état pour m'attacher.
No money, no love.
No money, no money.
No money, no love.
No money, no love.
No money, no love.
No money, no money, no love.
No money, no love.
Music man. Abuelo man. Abuelo man. Ya yeah, man. Black Tiger. Jerry Mr. J. Pay up et faites de moi, c'est dingue dingue.